Alors, la parole de ce matin se trouve dans Matthieu 25. Ça sera dans donc Matthieu 25, les versets 1 et 13, et donc Marc va le lire.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant vu leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Alors, je m'excuse d'avance pour celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que la France est championne du monde en termes de lenteur administrative ? Alors, j'imagine que personne d'entre nous saute de joie lorsqu'on doit aller à la préfecture de police pour renouveler notre passeport, carte d'identité, ou au commissariat pour déclarer un vol. On est d'accord ? Parce qu'on sait pertinemment à l'avance qu'il va falloir attendre, on va devoir patienter, on va devoir faire la queue. Et c'est pareil lorsque on va chez le docteur. Et je ne pense pas que ce soit un hasard qui nous appelle des patients et qui est au salle d'attente. Oui, en fait, on est des patients parce que on a besoin de voir ce docteur, on a besoin de voir cette personne. Et le truc, c'est qu'on sait à un moment ou à un autre qu'il va enfin sortir, n'est-ce pas ? Comme on sait qu'en tant que chrétien, à un moment ou à un autre, Jésus va revenir.
Alléluia.
Et donc, pendant que nous sommes sur terre, une sorte de salle d'attente, on attend le Seigneur. Parce que nous devons patienter et nous devons le voir. Et à cet effet, nous devons être vigilants et nous devons être prêts pour son retour. Et c'est ce que cette parabole nous dit, nous raconte, nous demande de faire dans Matthieu 25, donc des versets 1 à 13. C'est une parabole qui est assez connue pour celles et ceux qui l'ont entendu dans l'église. Et donc, pour présenter ce sermon, je vais le faire en trois parties. Donc la première, ce sera l'attente du marié, verset 1 à 5. Ensuite, l'arrivée du marié. Enfin, la présence du marié. Donc on va commencer avec les versets 1 à 5. Alors je vais vous donner un petit rapide rappel du contexte dans le verset chapitre 24. Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem. Et donc ses disciples lui demandent quand est-ce que cela va arriver. Et en même temps il leur demande quand est-ce que ça sera la fin du monde. En fait, pour nous, cela peut sembler un peu bizarre que ses disciples posent ces questions, mais on pas tant ça. Pourquoi ? Parce que pour les disciples, la destruction du temple de Jérusalem précédait le retour de Jésus et donc précédait la fin du monde. En fait, à l'époque, pour les Juifs, la destruction du temple de Jérusalem a été considérée comme une catastrophe incroyable. C'est comme si, à Paris, on perdait la Tour Eiffel, ou si dans le deuxième on parlait de notre canal Saint-Martin, d'une certaine mesure. Et donc les disciples pensaient que le retour de Jésus se ferait immédiatement, mais la réponse que Jésus indique dans le chapitre 24 indique qu'il fallait attendre beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'imaginaient. Sur le coup, bien sûr, les disciples ne savaient pas que ça va durer au moins 2000 ans. Mais Jésus leur donne des signes sur lesquels même nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on peut s'appuyer pour savoir quels sont les signes de son retour et donc de présager son retour. Le fait est que, sauf le Père, personne ne sait quand est-ce que Jésus va revenir exactement. Même Jésus, il ne le sait pas exactement. C'est pourquoi Jésus appelle à ses disciples d'être vigilant, d'être prêt, parce que Jésus va revenir. Amen. Et donc, pour illustrer son point, Jésus nous raconte cette parabole des 10 jeunes filles ou des 10 jeunes vierges. Et en tant que prédicateur, je pense qu'il est important pour moi, je juge qu'il est important de vous raconter, de vous décrire brièvement quel est le déroulement d'un mariage juif pour vraiment comprendre l'essence de cette parabole. Donc, à l'époque, dans un mariage juif, il y avait 3 étapes. Donc, il y avait 3 étapes. La première étape, c'était l'arrangement. La deuxième étape, les fiançailles. Et troisièmement, le mariage. Donc, arrangement, fiançailles, mariage. Donc, comme son nom l'indique, il y avait la période des arrangements. Et c'était un arrangement qui se faisait entre les pères des futurs époux. En général, c'était le père de l'époux qui choisissait donc la fille pour son fils. Et donc, il y avait un accord oral, puis un accord écrit entre les deux pères, pour justement stipuler les contrats du mariage entre les deux époux, les deux futurs mariés. Et ensuite, le jeune homme payait le douaire pour sa future femme. Sachez, mesdames ou mesdemoiselles, que la fille avait son mot à dire. Donc, elle pouvait refuser. Et ce n'était pas simplement un accord entre les deux pères, et voilà. Mais la fille avait son mot à dire. Ensuite, donc, il y avait la période des fiançailles. Donc, pendant la période des fiançailles, les fiancés échangeaient leurs vœux lors d'une cérémonie en public. Et donc, ils entraient dans une sorte de période de sanctification, qu'ils appelaient comme ça, qui durait environ un an. Et même s'ils étaient considérés mariés à l'époque, le couple vivait séparément encore et ils n'avaient aucune relation intime entre eux. Et après la cérémonie des fiançailles, le marié donnait un cadeau à sa future épouse pour que lui se souvienne de son engagement pendant toute cette période d'une année et qu'elle puisse attendre son retour. Et en fait, à l'époque, cette période de fiançailles était beaucoup plus significative que ça l'est aujourd'hui. Parce que, en effet, pendant les fiançailles étaient tellement fortes, ce contrat était tellement fort, qu'il fallait un divorce religieux pour annuler le contrat de mariage. C'était pas comme aujourd'hui, où voilà, on dit, on s'entend pas bien, donc on arrête avant de se marier. Et seul le fiancé pouvait faire cette démarche. Et je vous dis ça, c'est important, vous comprendrez plus tard. Et donc, pendant cette période de sanctification, le marié, qu'est-ce qu'il faisait son job? C'était de préparer la future demeure, la future maison, pour accueillir sa future femme. Et le rôle de la mariée, par contre, qu'est-ce que c'était? C'était de se préparer à se consacrer pour son mari, et surtout à son retour. Et donc, il s'agissait d'un moment de très très grande anticipation pour elle. Et la grande caractéristique de cette période, c'était qu'elle ne savait pas quand est-ce que lui allait revenir la chercher. Et donc l'effet de surprise pendant cette période était anticipé, était grand. Donc, sachant qu'il s'agissait d'une surprise, la mariée devait se tenir prête à tout moment pour accueillir le marié. Et il était courant que lorsque le marié revenait, il y avait un groupe des hommes, enfin ses meilleurs témoins, annonce la venue de celui-ci par des chants, par des cris, par des instruments de musique, avec une procession jusqu'à la maison de la mariée. Et c'est ensuite qu'il avait finalement le mariage, avec le renouvellement des vœux par une cérémonie finale. Puis, il y avait les festivités qui se tenaient pendant 7 jours avec la nourriture, les chants, la fête, la danse, etc., etc., etc. Et donc, après cela, la femme pouvait enfin finalement ramener sa femme chez eux et consommer le mariage ensemble. Et donc, la parabole que Jésus nous raconte dans cette histoire, nous sommes à la fin des fiançailles, juste avant les festivités. On peut lire des versets 1 à 5. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, nous avons ici 10 jeunes filles qui étaient certainement les demoiselles d'honneur de la future mariée et non pas 10 mariées comme certains peuvent le penser. Et donc, ces 10 jeunes demoiselles d'honneur attendaient avec la future mariée l'arrivée du futur époux pour enfin commencer les célébrations dans la salle de noces. Donc, la parabole que Jésus la raconte nous dit qu'il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Il ne parle pas de 5 filles qui étaient moralement bonnes ou 5 filles qui étaient moralement mauvaises, mais de 5 filles qui étaient imprudentes et prudentes, 5 filles qui étaient réfléchies ou irréfléchies. Et donc, les 10 filles ont pris des lampes avec elles, comme le veut la tradition juive. La moitié d'entre elles n'ont pas pris de l'huile, alors que l'autre, Matthieu, en ont pris. Comme vous pouvez l'imaginer, l'huile servait donc à allumer la lampe. Et il est très probable que les filles, lorsqu'elles sont parties, elles ont pris les lampes pendant la journée, et ce n'était pas en pleine nuit, mais pendant la journée. Et donc les filles sages qui ont pris de l'huile se sont attendues à ce que le marié revienne pendant la nuit, parce qu'elles ont anticipé justement son retour. Le parallèle de cette parabole est le suivant. Le marié représente bien sûr Christ. La fête de mariage représente bien sûr le banquet final qui va se passer au ciel. Et les 10 jeunes filles représentent toutes les personnes qui sont invitées à cette fête nuptiale. Et donc cette parabole montre que toute personne, tout être humain est invité à célébrer Christ. Mais seulement une partie des invités ne sont pas préparés pour le mariage, alors que l'autre partie est préparée. Cette dernière partie anticipe la venue de Christ avec beaucoup d'effervescence, avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme, parce qu'ils sont impatients de revoir le marié, comme une fiancée serait impatiente de revoir son futur époux dans un mariage juif. Parce que donc ces 5 jeunes filles ont anticipé le retour, elles ont donc fait preuve de lucidité et de sagesse, et donc se sont préparées pour accueillir au marié. L'huile ici symbolise cette préparation et cette anticipation. Sans cette huile, elle ne serait pas présente. Laissez-moi vous poser une question. Qui aime ne pas être préparé pour un grand événement? Alors, il y a quelques années, j'étais invité à un mariage, d'ailleurs. C'était à Paris, donc j'y suis allé. Et à mon arrivée, on m'a littéralement sauté dessus. Pourquoi ? En fait, c'était donc une amie qui se mariait, un jeune homme qui était américain. Et donc, on m'a demandé de faire la traduction. Et parce que le traducteur de l'époque était en retard. Et donc, moi, je devais faire la traduction. Le problème, c'est que j'étais absolument pas préparé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était totalement horrible. C'était tellement terrible, ma traduction, que pendant la cérémonie, on m'a changé. Personne n'aime ne pas être préparé, on est d'accord? Et qui aime rater un événement pour faute de préparation? Encore une petite anecdote. En 2003, je passe mon bac. Je passe mon bac, j'avais révisé, c'était l'épreuve d'histoire géo, et donc j'avais révisé comme un grand étudiant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, le jour de l'épreuve, je me suis réveillé, et il se fait que j'étais en retard. J'étais en retard, pour une raison ou une autre, mon réveil n'a pas sonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai paniqué, je suis quand même allé au lycée où je devais passer l'épreuve, et voilà, je suis arrivé et par miracle, je ne sais pas pourquoi, on m'a laissé rentrer alors que j'avais une heure de retard. Alors que je sais qu'aujourd'hui, si on a quoi, 5 minutes de retard, on ne vous laisse pas rentrer. Et par miracle, on m'a laissé rentrer, donc j'ai écrit tout ce que je pouvais Et pour la petite info, j'ai eu mon bac. Oh, Seigneur. Et donc, le but de ces illustrations et de cette parabole de Jésus, c'est qu'il faut se préparer et être vigilant lorsqu'on anticipe un grand événement. Au retour de Jésus, Dieu va célébrer un mariage entre son Fils et son Église. Chaque être humain est donc convié à y aller. Ce sera un mariage qui sera divin, qui sera cosmique, qui sera la plus grande et la plus belle des fêtes. Mais avant cela, il faut se préparer parce que le roi va revenir. Et c'est ce qui nous mène à notre deuxième partie, l'arrivée du marié. Donc, lisez avec moi versets 6 et 9. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Alors, il y a environ un mois et demi, on a fêté Noël. Noël, c'est quoi? Noël, c'est célébrer la venue et la naissance de Jésus. Si Jésus est venu une toute première fois, comme cela a été annoncé dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et les prophètes, alors donc, le fait que Jésus ait lui-même annoncé son propre retour présage non pas une possibilité, mais une certitude, mes frères et sœurs. Parce que Jésus, il a toujours accompli ses paroles, il a toujours fait ce qu'il a dit. Et donc, lorsque les filles se sont réveillées, lors de l'annonce de l'arrivée du marié, les folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile, et donc, elles en ont demandé aux sages. Mais le fait est qu'ils ne l'avaient pas assez pour tout le monde. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous qui voulons être préparés pour accueillir Jésus, le roi divin, lors de son retour, pour ne pas se retrouver dans la même situation que ces cinq folles? Premièrement, c'est d'être conscient que Jésus va revenir. C'est d'être conscient que cela peut arriver à n'importe quel moment. En effet, oui, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2000 ans que Jésus a prononcé ces mots. 2000 ans, c'est quand même long. Et pour beaucoup d'entre nous, je pense que cette parole du Seigneur peut sembler improbable que Jésus revienne pendant la durée de notre vie sur Terre, si on est honnête avec soi. Évidemment, si on dit à nos amis non-croyants que Jésus va revenir, on nous prend pour des fous. Mais souvenez-vous que lorsque Jésus a annoncé qu'il était Messie, peu sont les personnes qui l'ont suivi également. Et donc les disciples ont été moqués. Ils ont été moqués et ils ont aussi été insultés pour le fait qu'ils attendent le retour du Jésus et du Messie. Et donc l'apôtre Pierre a écrit ceci pour encourager son auditoire. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et disant « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état, qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. En effet, faire face aux moqueries et faire face aux railleries n'est jamais difficile. Il est donc tentant de prendre à l'aise légère les paroles de Jésus, voire même d'être parfois incrédule face à son retour. Et donc, prendre conscience de cette réalité est un premier pas à cette prise de conscience, est un premier pas à la vigilance. Et écoutez comment l'apôtre Pierre encourage ses lecteurs face aux moqueurs. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En clair, on n'a pas la même notion du temps que Dieu. Et il est probable que certains d'entre vous se demandent donc pourquoi Dieu nous fait-il attendre tout ce temps? Pourquoi? Et une fois de plus, l'apôtre Pierre nous donne la réponse à cette question. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, mais au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Si la raison pour laquelle Jésus n'est toujours pas revenu est celle-ci, cela nous indique clairement ce qu'il nous reste à faire. Dieu aime tellement ses créatures qu'il attend patiemment que des âmes se tournent vers lui et se repentent. Quel Dieu d'amour et de miséricorde. Amen. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il nous inclut dans son projet de rédemption. Il nous invite à proclamer sa bonne parole. Il nous invite à être des instruments dans l'avancement de son royaume. Alors si vous avez commencé à partager la bonne nouvelle autour de vous, à vos amis, à votre famille, continuez, ne persévérez pas. C'est important, mes frères et sœurs. Si Dieu fait preuve de patience envers ces gens-là, alors à combien plus forte raison nous, en tant que ses disciples, nous devons aussi faire preuve de patience. Parce qu'en œuvrant pour le royaume de Dieu, nous contribuons au fait que Jésus revienne. Et bien sûr, il est important de se rappeler que ce n'est pas par nos efforts que les gens vont se tourner à Dieu, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Chaque croyant possède le Saint-Esprit comme guide, et nous devons absolument nous appuyer sur celui-ci, parce que c'est lui qui transforme le cœur, c'est lui qui guide nos vies, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous rend réconfortés, c'est lui qui nous édifie. Une autre application concrète. C'est bien de proclamer Jésus, mais il est également important de le faire par nos actions. J'y ai environ 30 ans. Et beaucoup de personnes de ma génération, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui faire? C'est changer le monde. Et on sait que c'est impossible de faire ça. Du moins pas comme on le fantasme dans nos têtes. Dieu, il nous appelle à être des serviteurs fidèles. Il nous a placés dans un endroit précis, dans un emploi précis, dans un travail précis. Il nous appelle à faire d'être excellents dans ce que l'on fait, dans notre travail. Et il a fait exprès de limiter nos champs d'action pour être plus efficaces. Non pas que Dieu ne veut pas que l'on fasse de grandes choses, mais pour la plupart des gens, Dieu nous appelle à faire des choses dans notre foyer, dans notre vie, dans notre quartier, dans notre travail. Il nous demande d'être des serviteurs, à faire des choses simples, être fidèles, aimer notre prochain et à servir l'Église. Le temps nous est donné pour préparer son retour et d'annoncer sa venue, c'est maintenant et pas demain. Parce que Jésus reviendra bientôt. Et donc on va passer à notre dernière partie, la présence du marié. Lisez avec moi versets 10 à 13. Pendant qu'ils allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » En effet, il y aura un moment où ça sera trop tard, où la porte se refermera. Et ça sera trop tard pour aller aux festivités du mariage. Et ce, à jamais. Un commentaire que j'ai lu pour ce passage nous dit que celles qui étaient présentes dans la procession nuptiale se devaient d'avoir leur propre lampe afin de montrer qu'elles étaient des invitées et qu'elles connaissaient le marié ou la mariée. Après tout, qui invite des inconnus à son mariage? Personne ne fait ça. Et c'est pourquoi le marié donc prononce ces mots « Je ne vous connais pas ». C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Mais les cinq jeunes filles folles se sont vues refermer la porte sous leur nez par manque de préparation et par manque de vigilance. Quelle erreur ce serait de notre part si cela nous arrivait, ou de se retrouver dans la même situation pour les mêmes raisons. Quelle erreur. Alors, comment être dans la présence du marié? Comment se faire connaître de Dieu? Alors, si Jésus utilise cette parabole, ce n'est absolument pas un hasard. Il s'agit donc de la parabole dans un contexte de mariage. Du début de la Bible, c'est-à-dire qui a commencé par l'union entre Adam et Ève, jusqu'à la fin de la Bible, pendant la célébration des noces nuptiales et divines, l'image du mariage est omniprésente parce qu'elle décrit la relation entre Christ et son Église, son épouse. Et donc, je vous ai parlé au début de trois étapes dans un mariage juif. Les fiançailles, les fiançailles et le mariage. Et le récit de l'Évangile, le récit de la Bible, décrit exactement ce processus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu le Père a choisi une épouse pour son Fils. Il l'a concrétisé par une alliance stipulant amour, fidélité et sacrifice. Et donc Jésus a conclu lui-même cette alliance en payant de sa propre vie, en allant mourir sur la croix. Et il a payé le douaire de cette manière. Et en mourant sur la croix, il démontre toute l'amplitude et toute la plénitude de son amour pour chacun d'entre nous. En échange, comme une mariée doit payer sa dot, promettant de se réserver pour son futur époux, l'Église doit se montrer obéissante et fidèle envers Christ, son époux. Et lors des fiançailles, qui sont, comme je rappelle, une période de sanctification, dans laquelle nous devons faire preuve de notre attachement face au futur marié qui va revenir. C'est un attachement qui est public. Donc, nous devons lui témoigner de sa venue. Et malgré la séparation temporaire entre Christ et son Église, Jésus nous a laissé un cadeau pour pas qu'on oublie qu'il revienne. Et ce cadeau, c'est le Saint-Esprit sur lequel on peut s'appuyer. Parce qu'une fois de plus, Jésus va revenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la tradition juive, le divorce n'était disponible que pour le mari durant la période de fiançailles. Mais, à la différence des hommes, Dieu ne revient jamais sur sa parole et sur ses mots. Sa promesse est qu'il s'est engagé envers nous, par son amour, par sa grâce, et ce, pour l'éternité. Même lorsque nous lui sommes infidèles. Et c'est ça la beauté du personnage de Dieu. Et donc, l'implication de ce fait est simple. L'alliance que Dieu a certifiée entre son Fils et nous, son Église, elle est garantie et scellée à jamais par le sang de Jésus. Amen. Et donc, cela signifie que dans cette période de fiançailles, Jésus est en train de préparer la nouvelle demeure pour que nous puissions y être avec lui. Et de même, en même temps, nous devons nous préserver pour lui et préparer son retour, parce qu'une fois de plus, il va revenir. Amen. Et lorsque ce sera le cas, nous serons dans sa présence. On pourra le célébrer, faire la fête, chanter, manger, boire, avec joie, yes et ferveur. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a celles et ceux qui arrivent à l'heure à un rendez-vous, et il y a les autres qui arrivent toujours en retard. Vous voyez de quoi je parle? Il y a toujours cette personne dans notre entourage qui est toujours en retard. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est que cette personne, c'est vous. Et donc, nous connaissons cette personne qui est toujours en retard, et donc elle a cette fantastique capacité à être toujours en retard à chaque fois. Et malgré ça, même si on sait qu'elle va arriver en retard, on arrive peut-être 5 minutes ou 10 minutes en retard, parce qu'on pourra attendre un peu moins longtemps, mais on fait l'effort de venir avant elle, parce qu'on va attendre cette personne, on ne va pas s'attendre, à chaque fois que cette personne avec qui on a rendez-vous, parce qu'on aime cette personne, on veut passer du temps avec cette personne, on veut la voir. Et donc si on aspire à passer du temps avec Jésus, qu'on veuille le voir, qu'on veuille être avec lui, d'être dans sa présence, on va attendre avec anticipation. Frères et sœurs, soyez donc prêts et vigilants, parce que le retour du roi, de Jésus, est imminent. Amen. Priez avec moi. Dieu notre Père, merci pour cette parabole. Merci pour cette histoire qui nous rappelle que ton Fils, Jésus-Christ, va revenir. Et même si parfois on est inconscient de ça, ou parfois on oublie ça, que tu puisses nous pardonner, mais que tu puisses nous aider à nous en souvenir, afin d'anticiper et d'être vigilant et d'être prêt pour ton retour. Parce qu'on veut te voir, on veut être dans ta présence et on veut passer du temps avec toi, Seigneur. On veut être dans la présence glorieuse de qui tu es, et que tu puisses nous aider à vivre cela aujourd'hui sur la terre, même si c'est pas facile. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider, être avec nous, que l'on puisse la ressentir chaque jour après jour, et que tu puisses être honoré dans notre vie. Et je te demande toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.